Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Ça y est, nous y sommes, dernière ligne droite avant le second tour. Oui, parce qu'il y a déjà eu un premier tour, je le dis parce que, vu le niveau de l'abstention, un complément d'information sur les règles du jeu ne fait jamais de mal. Le petit théâtre de la course à l'Elysée va donner des représentations encore quelques jours. Nous sommes en coulisses pour vous relater le moindre détail et vous avez l'air d'apprécier, comme vous nous le dites, grâce à vos messages que vous nous adressez à libellisé@libération.fr. Alors maintenant, roulement de tambour. Est-il possible qu'un nouvel épisode arrive cette semaine? Ça vous tente? Eh bien, juste le temps d'allumer la mèche et c'est parti. Cette semaine, c'est un épisode spécial débat que nous tournons au lendemain du face-à-face entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Depuis 1981 et Mitterrand-Giscard, il n'y avait pas eu de match retour entre candidats à la présidentielle. Et celui de mercredi fut long, 2h50 et 10 secondes. Une Marine Le Pen vite dépassée, un Macron vite arrogant, un programme contre programme où s'est invité Vladimir Poutine déguisé en banquier. Cela suffira-t-il pour séduire les hésitants du vote au second tour? Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon se sont-ils retrouvés chez un candidat? Libellisé, épisode 12, duel Macron-Le Pen, un débat sans magie, même avec Gérard Majax. Et on va en parler avec Charlotte Chaffangeon, salut.
Bonjour.
Alors toi, tu suis le candidat Emmanuel Macron tout au cours de cette élection, et également Tristan Berthelot, salut.
Bonjour.
Toi, tu suis alors donc Marine Le Pen. Juste au début, on enregistre ce podcast à quelques heures après ce débat. Est-ce qu'on sait comment les équipes de campagne, qu'est-ce qu'elles pensent de la prestation de leur champion ou leur championne?
Du côté d'Emmanuel Macron, et sans surprise, ils sont satisfaits. Ils ont l'impression qu'Emmanuel Macron a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire leur projet, c'était de démasquer Marine Le Pen. Donc, est-ce qu'il l'a vraiment démasquée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a été en dessous de ce que ceux qui imaginaient qu'elle serait meilleure qu'il y a 5 ans pensaient. Il a l'impression d'avoir fait le travail. Il n'avait pas mis énormément d'attentes sur ce débat. D'abord parce que depuis 1974, jamais un débat n'a inversé une tendance. Les sondages de la veille du débat sont les mêmes le lendemain et le résultat du dimanche, c'est quand même que 4 jours plus tard et souvent, voire toujours, corrélé à ces études. Donc le débat ne change rien. Il sert plutôt à conforter l'opinion des personnes qui le regardent. Donc il n'avait pas des attentes immenses.
Et toi, Tristan, du côté de Marine Le Pen, qu'est-ce qu'on en a pensé?
Ah, évidemment, on est également satisfait. Je cite ce directeur adjoint de la campagne qui dit qu'elle a été calme et sereine, qu'elle a exposé son projet face au monstre d'arrogance qui est Macron. En fait, l'objectif pour elle était beaucoup plus de laver l'affront de 2017 que d'essayer de faire basculer l'élection. Comme l'a dit Charlotte, ce n'est pas l'objet de ce débat. Là, elle a plutôt bien réussi, puisque peut-être la seule chose qu'elle a réussi dans ce débat, c'est qu'elle est restée calme tout du long, sans pouvoir montrer, comme la dernière fois en 2017, cette espèce de scène ridicule où elle avait craqué avec les mains, vous voyez, les envahisseurs dans les campagnes. Voilà, ça, elle ne l'a pas fait. À l'époque, les électeurs s'étaient sentis trahis, ils avaient pensé qu'elle n'était pas prête à gouverner, et c'est quelque chose qu'elle a traîné comme un boulet pendant 5 ans. Donc l'enjeu était quand même assez grand pour elle de rattraper cette image. D'ailleurs, on l'a vu, elle a été tout du long vraiment dans le contrôle. Là-dessus, on peut dire que c'est une réussite parce qu'elle a réussi quand même à faire montrer chez Macron une espèce de d'arrogance qui a été vue en tout cas chez les électeurs qui n'attendaient que ça. Nous, on a été en reportage chez des électeurs de Marine Le Pen, chez eux, qui regardaient le débat. Et faut lire d'ailleurs ce reportage de Mathilde Frénois qui montre bien leur réaction. Ils ont été tout de suite assez véhéments. Heureusement que je ne suis pas sur le plateau, sinon je vais lui mettre une tarte, il nous prend pour des charlots, je vais lui casser la gueule. Voilà. C'est ça qui est ressorti. On verra ensuite si ça paiera plus tard.
Une chose tout de même à propos de Marine Le Pen, ça a commencé ce débat avec un faux départ. Directement. C'est-à-dire qu'elle a parlé sur le générique. Elle était trop enthousiaste, trop excitée par l'enjeu. Elle s'est dit c'est le moment. Sa phrase était le plus grand atout de la France et son peuple. On a bien compris qu'elle l'avait préparé, cette phrase.
Oui, c'est ça. Et puis ça l'a déstabilisée. Mais c'est peut-être qu'elle attendait beaucoup trop de ce débat et donc elle a voulu se lancer tout de suite dedans. La dernière fois, en 2017 aussi, elle était commencée très rapidement sur les chapeaux de roue, un peu comme une lionne prête à mordre qui était partie comme ça. Elle était partie beaucoup trop vite par ailleurs. Elle avait aussi déjà bafouillé. Voilà, elle s'est reprise ensuite. On a vu qu'elle se forçait à parler vraiment doucement, calmement. C'était peut-être ce qu'elle avait le plus préparé avec ses coachs.
Alors du côté d'Emmanuel Macron, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a eu une petite technique. C'est en gros, je ne parle pas de mon bilan, mais plutôt celui de Marine Le Pen. C'est assez étonnant en fait. En gros, il s'y était préparé en fait quand même à ce débat.
C'est pas si étonnant que ça parce qu'il y a 5 ans, Emmanuel Macron était pour le coup quasiment inconnu, avait pas de bilan à son actif. Quand bien même on peut expliquer qu'il était secrétaire général de l'Élysée puis ministre de l'économie, il était quand même pas président de la République. Donc il était assez peu attaquable justement sur un éventuel bilan. Ce qui était quand même cette fois-ci le risque hein, que Marine Le Pen pilonne sur absolument tous les points de son bilan qui ne sont pas exactement à la hauteur de ce qu'il avait annoncé. Et pour le coup, il y avait de quoi faire, quand bien même lui martèle que le chômage est au plus bas et la croissance au plus haut. Il y a quand même pas mal de choses à discuter. Puisqu'elle a pas pris ce chemin-là d'emblée, lui est plutôt parti à l'offensive puisqu'il y avait un terrain, une brèche. Et donc, il avait plutôt intérêt à pointer ses incohérences à elle et ses insuffisances à elle et ses faiblesses à elle que de laisser le champ libre à l'analyse de ses résultats. Quelque part, j'ai presque envie de dire que c'était cadeau.
Mais toi qui le suis finalement depuis le début de cette campagne, est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que pour toi, Emmanuel Macron a développé son programme dans ce débat?
Son programme, pour le coup, il le développe depuis, alors on peut lui reprocher de ne pas en avoir, mais quelques semaines, hein, le 17 mars à Aubervilliers, il y a passé 4 heures à dévoiler les principaux points de son programme et des mesures quand même assez concrètes. Hein, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais en tout cas, si après son élection, il repousse l'âge de départ à la retraite, s'il conditionne le RSA à 15 à 20 heures de travail, d'activité, s'il conditionne le salaire des profs à de meilleurs résultats, ce ne sera pas une surprise. On ne peut pas lui reprocher ça. Donc il a redéroulé les mêmes points sans faire d'annonce. Ce n'est pas le but d'un débat. J'ai pas découvert grand-chose. Je n'ai pas été particulièrement surprise. On avait beaucoup discuté parce que c'était des discussions qu'il y avait en interne avec ses équipes avant le débat de cette question de l'arrogance et de la condescendance qui est visiblement ce qui revient le plus dans les commentaires. Emmanuel Macron, j'ai envie de dire, est comme ça. Et on l'a vu tel qu'en lui-même. Donc il a quand même essayé d'abaisser d'un niveau. On l'a vu dans la première partie du débat où il a un peu joué l'humilité en disant à Marine Le Pen à plusieurs reprises « Mais oui, vous avez raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, c'est ce que je perçois du pays. » Ce que j'écrivais dans Libération hier soir, c'est que le ton quand même flirtait entre la charité et la condescendance. Hein. C'était presque « Mais oui, ma grande, c'est bien, on a compris. » Voilà, donc il a commencé comme ça. Un peu pour faire plaisir à ses conseillers, à qui il avait dit, selon le Canard enchaîné, j'ai pas besoin de coach comportemental, arrêtez de m'ennuyer avec cette histoire de l'arrogance, je suis au courant, j'ai compris, maintenant c'est pas un cours de yoga, un débat. Donc il a quand même un peu joué le jeu un quart d'heure, et puis après, dès qu'il a vu qu'elle était pas au niveau de ce qu'on aurait pu attendre, il a redéroulé sa stratégie à lui, c'est-à-dire de faire comprendre aux Français, avec son visage un peu fronçant les sourcils, etc., qu'elle n'était pas à la hauteur, en tout cas pas à sa hauteur. Mais Emmanuel Macron pense depuis 2012 globalement que personne n'est à sa hauteur. C'est ce qui lui avait permis de se lancer dans la présidentielle en 2016. C'était la conviction que François Hollande était vraiment en dessous de ses capacités à lui. Et il a toujours pensé ça de toutes les personnalités successives qu'il a eu à affronter.
Tu parlais des sourcils français ? C'est-à-dire que tout ça, c'est travaillé ou pas, ou c'est naturel?
Alors, c'est très difficile de répondre. Pour le coup, j'aurais tendance à dire que c'est très naturel. Je pense que naturellement, il la regarde en disant, mais peut-être qu'il en rajoute un peu, mais c'est pas dans son intérêt d'en rajouter, pour le coup. Parce que c'est un peu agaçant d'avoir quelqu'un qui donne le sentiment de donner des leçons, même si on est d'accord avec lui, même si on vote pour lui, même si on l'aime bien, on n'a jamais envie d'avoir l'impression de passer pour des idiots. Et Emmanuel Macron donne un peu le sentiment comme ça qu'il prend un peu tout le monde pour des idiots. Et donc, c'est pas dans son intérêt, donc je pense que c'est assez spontané. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un jugement qui ne se base sur aucune certitude.
Tristan, alors c'est vrai qu'on nous avait dit Marine Le Pen, là, elle a préparé, ça fait 5 ans qu'elle y est, elle s'est même mis au vert, etc. Bien, en fait, on s'est vu qu'elle s'est fait cueillir sur le pouvoir d'achat directement, tout de suite. Ça veut dire que cette préparation, est-ce que c'était, comme tu le disais au début, est-ce que c'était finalement vraiment le but qu'elle dise ce qu'elle pense sur le pouvoir d'achat, ou alors c'était de montrer, en effet, une certaine posture d'Emmanuel Macron?
Il y a deux choses. Alors, effectivement, le pouvoir d'achat, c'est un petit peu ce qu'elle a déroulé sur la fin de sa campagne, la chose la plus importante pour elle. D'ailleurs, c'était le sujet qu'elle voulait voulait voir démarrer le débat, alors que Macron, lui, il voulait parler d'international. D'ailleurs, on l'a vu plus tard pourquoi, parce qu'il l'accueillit sur son pré russe. D'ailleurs, elle-même, pendant les derniers moments de la campagne, a travaillé sur ce pouvoir d'achat, même sur la question de l'Ukraine, c'est-à-dire elle a transformé toutes les questions liées à l'Ukraine sur les sanctions, la défense des Français sur le pouvoir d'achat. Donc on a pensé en départ qu'elle allait assurer dès le début cette fonction de défense du peuple français, comme elle s'est montrée. Et en fait, assez rapidement, bon, mis à part quelques propositions hein, qu'elle a faites, qu'on connaît très bien, c'est-à-dire baisser de manière pérenne la TVA sur les carburants de 20% à 5,5%, une mesure qu'on sait par ailleurs impossible, puisque le droit européen l'empêche. On ne prévoit pas qu'en dessous de 15%, ça puisse être quelque chose de définitif, ça ne marche pas. On a vu tout de suite qu'en fait, Macron l'a rabaissée à son simple rôle d'opposante. Elle lui a souvent montré un petit peu de respect en disant « vous avez raison ». Mais derrière, c'était aussi pour rappeler qu'en tant que députée, elle n'avait pas voté, par exemple, le bouclier tarifaire pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie. Derrière, elle n'a pas su trop quoi répondre. C'était un petit peu mou, quoi. Je veux changer de fond en comble le système. Elle a lancé ça, quoi. Bon, ça ne parle pas beaucoup. Et en cela, comme on l'a vu, comme Charlotte l'a dit, il a été bien meilleur sur son bilan à elle que l'inverse, elle sur son bilan à lui. Je crois que la fin était encore plus terrible sur le pouvoir d'achat, c'est qu'il lui a lancé « vous n'avez pas répondu car vous n'avez pas de réponse ». Et en fait, dès le début du débat, on a vu qu'elle était déjà perdante.
Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle a très peu utilisé quelque chose dont on pensait qu'elle allait vraiment faire ses gorges de choses, qui est l'affaire McKinsey. C'est une seule fois, ça veut dire qu'elle n'était pas, elle n'avait pas assez de billes en gros.
Non, elle l'a fait très tard dans le débat. Il l'a calmé tout de suite en disant je m'y attendais plus tôt. Je crois que c'était sur une question sur l'éducation. Et encore une fois, elle a voulu se montrer dans une posture un petit peu royale à la Merkel. C'est un peu ce qu'on attendait d'elle, la posture de chef d'État potentiel, c'est-à-dire dans la dignité, pas dans l'attaque systématique. On va pas faire ça, on va pas tomber dans l'ajout. D'ailleurs, elle avait d'autres sujets. Il n'y avait pas que McKinsey, il y avait le premier de cordée, les gilets jaunes, l'affaire Benalla, il y a plein de choses sur lesquelles elle aurait pu attaquer Macron. Elle ne l'a pas fait. On peut se demander effectivement pourquoi, mais encore une fois, je pense oui, que c'était une posture pour pas trop l'attaquer. Quoi. D'ailleurs, tout de suite, ses lieutenants ont dit, vous voyez, le mépris est du côté d'Emmanuel Macron et pas de Marine Le Pen.
Une chose, par contre, qui était travaillée du côté d'Emmanuel Macron, ça fait plusieurs semaines qu'il travaille, c'est sur Vladimir Poutine, ça faisait partie de la stratégie du débat de la part d'Emmanuel Macron.
Là, pour le coup, pourquoi s'en priver ? Les Français sont inquiets par cette guerre. Emmanuel Macron lui-même en a fait un argument pour justifier l'absolue nécessité de sa reconduction, puisque ça fait plusieurs semaines qu'il se présente comme quasiment le faiseur de paix en Europe. Et en face de lui, il a une candidate qui, bizarrement, et je pense que ça s'analysera, chacun a un peu ses explications, les macronistes en ont, a moins souffert dans les sondages que Éric Zemmour, qui s'est montré en admiration totale depuis des semaines et des mois et des années pour Vladimir Poutine et qui, du coup, lui, a payé très cher et d'un coup, l'invasion de la Russie en Ukraine. Elle, pas du tout. Donc, l'explication d'un des ministres macronistes me disait c'est parce que son électorat, à elle, qui est plus populaire et moins intéressé par ces questions-là, et plus intéressé par les questions du quotidien, par les questions de pouvoir d'achat, alors que l'électorat d'une Valérie Pécresse ou d'un Éric Zemmour est très intéressé par la place de la France dans le concert mondial, etc. C'est leur explication. Mais du coup, évidemment qu'il voulait rappeler aux gens qui l'auraient oublié qu'elle était admirative de Vladimir Poutine. Et il l'a fait via un billet quand même plutôt intelligent. C'est qu'il n'a pas simplement dit « Vous êtes fan de Vladimir Poutine, vous l'avez rencontré en 2017, vous êtes allé chercher son onction entre les deux tours, ce qu'aucun dirigeant n'a jamais fait, ce qu'il aurait pu faire. » Non, il s'est basé sur quelque chose de concret. Et d'ailleurs, il l'a répété à plusieurs reprises, mais moi aussi j'ai des emprunts dans cette idée de vouloir se mettre vraiment au niveau des gens. Il a quand même dit à un moment donné sur un autre sujet « Mais on est tous dans la vraie vie, Madame Le Pen. » Bon, Emmanuel Macron n'est pas dans la vie de tout le monde, et il n'a pas les mêmes emprunts que tout le monde, les mêmes facilités et capacités de remboursement que tout le monde, et peut-être même pas les mêmes taux d'intérêt, mais en tout cas, il a joué vraiment sur cet aspect du prêt que Marine Le Pen a auprès d'une banque russe et qu'elle n'a pas fini de rembourser, parce que ça parle vraiment d'une manière extrêmement concrète à tout le monde. Effectivement, devoir de l'argent à Vladimir Poutine, personne n'en a envie. Mmh. Et ça donne le sentiment, effectivement, que Marine Le Pen n'est pas indépendante et que si demain elle est présidente de la République, eh ben, elle devra quelque chose à un pays qui, aujourd'hui, quand même, a déclenché une guerre monstrueuse en Europe.
Du côté de Marine Le Pen, c'est pareil, on ne sait pas trop expliquer comment elle a pu s'en sortir de cela. On aurait pu aussi se foirer sur l'Ukraine. En revanche, il y a eu une vraie stratégie qui a été mise en place, c'est-à-dire de tout de suite condamner cette attaque de la Russie en Ukraine et après de disparaître, de laisser les concurrents comme Pécresse ou Zemmour jouer au chef d'État. On a décidé chez Marine Le Pen, on ne va pas jouer au chef d'État, on ne va pas se positionner là-dedans. Pourquoi ? Parce que tout de suite, on voit le décalage entre ces personnes qui n'ont pas l'expérience de Macron ni les liens diplomatiques. Pécresse qui se monte comme ça en chef de guerre sur une table, on voit tout de suite l'image. Voilà. Zemmour, pareil, qui est arrivé dans son costume, le maigrichon, un petit peu, ça faisait l'attaquant rachitique. Et puis lui, il s'est encore plus enfoncé là-dedans, c'est-à-dire en refusant d'aider les Ukrainiens, un peuple qui ressemble pourtant à ses électeurs, dans leur esprit, c'est-à-dire chrétien, blanc, avec une longue histoire, tout ça. Il a manqué d'humanité. Donc là, ils se sont ramassés. Et c'est aussi parce qu'eux ont aspiré comme ça toutes ces ondes négatives, entre guillemets, que Marine Le Pen a pu s'en sortir. Après, on l'a vu aussi au débat. Elle est tout de suite mise en difficulté par ce que lui dit Macron. Et on l'a vu, c'est cette scène, par ailleurs, qui va sans doute marquer les esprits un peu aussi, au même titre que cette vague d'envahisseurs en 2017, quand elle sort un tweet, son propre tweet, imprimé par on ne sait qui, peut-être par elle ou par quelqu'un qui lui a donné au dernier moment, au fait, tu as tweeté ça en 2014, hein, le texte c'est « Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis ni à l'UE ». En fait, on n'oublie pas qu'à l'époque, elle a aussi raconté que la Crimée était russe depuis très longtemps. Elle a assuré que l'annexion de la Russie était quelque chose de légal.
Alors une chose, en effet, on voit une femme qui imprime un tweet, donc ça c'est assez rare, tout de même, il faut bien le dire. Et puis de l'autre côté, on voit un homme donc, de 44 ans qui cite Gérard Majax, de la part notamment d'Emmanuel Macron, qui nous avait fait du carabistouille donc en 2017, de la poudre de perlimpinpin. C'est très étonnant, c'est-à-dire que c'est un homme, un corps jeune avec un esprit de vieux.
Emmanuel Macron, il a des références, de boomer, je ne sais pas comment dire, mais il n'est pas... Oui, bon, ça on l'a beaucoup analysé, beaucoup raconté, beaucoup écrit, mais il est... Je ne sais pas s'il faut dire qu'il est intemporel ou hors de son époque, ou dans son époque et dans d'autres. Enfin, ça, bon, non, c'est pas étonnant du tout.
Ouais, oui,
non,
parce que c'est vrai que c'était quand même une référence assez étrange, c'est vrai, à Gérard Majax. Une chose, il y a aussi un moment, juste eu dans ce débat, un moment, la confrontation, là, il fallait rester jusqu'au bout, sur le voile, véritablement. Alors, juste une chose, Tristan, c'est vrai qu'on a vu, là, on va revenir dans un instant juste sur la campagne entre les deux tours, on a vu quand même Marine Le Pen, alors là, qui n'était plus aussi à l'aise qu'avant sur cette histoire de voile, pourquoi ça semble si compliqué pour elle, qui était avant très claire. En gros, elle veut interdire le voile sur l'espace public. Pourquoi d'un coup, ça devient compliqué pour elle ?
Bah, d'un coup, parce qu'elle est en finale de la présidentielle, donc il faut aussi rassembler. Son interdiction du voile est quand même une mesure qui vise les musulmans directement. Hein. Ça reste une population qui vote et donc qu'on veut aussi capter quand on veut être président de la République. Ça a été pendant l'entre-deux tours un petit peu la position qu'elle a traînée comme un boulet, un petit peu comme sa sortie de l'euro en 2017, alors moins fort évidemment, voilà, alors que ces cadres il y a quelques semaines faisaient le service après-vente de l'idée de mettre les amendes aux femmes voilées sur l'espace public, ils racontaient que c'était un marqueur islamiste au même titre que la barbe et la djellaba. Voilà, il y a eu ce reportage où on a vu cette septuagénaire qui a parlé à Marine Le Pen en lui disant qu'elle voulait le droit de porter le voile par tradition, et d'un seul coup Marine Le Pen qui change un petit peu de braquet en expliquant que la question est plus complexe. Voilà, bon, elle a quand même redit que pour elle, c'était quelque chose qui était une volonté des islamistes. Et en cela, sa façon de dire que l'islam est compatible avec la République, mais qu'elle combat l'islamisme, est dans l'esprit de Marine Le Pen quelque chose d'assez clair. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais elle a voulu aussi quand même mettre de l'eau dans son vin sur cette histoire, parce qu'elle sait que ça reste quelque chose qui va à l'encontre de l'esprit de la laïcité. D'ailleurs, Macron n'a pas du tout hésité à lui sauter à la gorge là-dessus. Il allait peut-être même un peu trop loin, mais en tout cas, lui a dit vous allez créer une guerre civile si vous faites ça, parce que si on commence avec le voile, il faut le faire sur tous les signes religieux.
C'est juste qu'il y a aussi un petit sujet avec l'électorat mélenchoniste que Emmanuel Macron et Marine Le Pen se disputent en partie. Pour Jean-Luc Mélenchon et son électorat, cette question de la laïcité est très importante. Et donc Marine Le Pen ne peut pas tout d'un coup comme ça repousser tout le monde en étant inflexible sur ces questions-là. Et d'ailleurs, on a vu Emmanuel Macron évoluer également dans cet entre-deux-tours sur la question du voile, puisque même s'il est plus ouvert que Marine Le Pen, il y a quand même au sein de son gouvernement des personnalités comme Jean-Michel Blanquer qui sont vraiment inflexibles. Et donc Emmanuel Macron était plutôt en retrait sur cette question-là. Et on l'a vu à Strasbourg croiser une femme voilée et lui dire « Ah, mais c'est génial, vous êtes féministe et voilée, mais bravo, j'encourage. » Enfin, un discours. Mais si Jean-Michel Blanquer ou Aurore Berger ou Marlène Schiappa écoutaient ça, j'aurais bien aimé voir leur tête. Donc lui aussi, en fait, a joué un peu, entre guillemets, avec cette question-là dans cet entre-deux-tours. À mon avis, mais ça je sais pas Tristan, c'est tous les deux uniquement liés à cette partie de l'électorat mélenchoniste.
C'est le cas Tristan, en effet, il y a alors forcément c'est aujourd'hui l'électorat à séduire. Est-ce que entre les deux tours, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, toi qui as suivi Marine Le Pen, est-ce que tu as vu des signes de tentative de séduction de la part de Marine Le Pen envers l'électorat mélenchoniste?
Pas vraiment. Mis à part ça, il n'y a pas eu non plus un appel du pied très très poussé pour l'électorat mélenchoniste, sans vraiment savoir pourquoi. Mais en fait, elle ne pouvait pas non plus changer son fusil d'épaule là-dessus. Alors bien sûr, le discours s'est fait un peu plus populiste, un peu plus anti-système, voilà. Mais l'entre-deux-tours a été d'une certaine manière plutôt tourné vers la présidentialisation, voilà. Une espèce d'idée comme ça de se montrer avec plus d'atours. Alors oui, elle a aussi attaqué les médias, ça on en parlera peut-être après si on reparle du second tour, mais en fait si on doit analyser cette période, elle était plutôt ratée pour Marine Le Pen pour le coup. On a vu, il y a eu plusieurs événements, il y a eu cette conférence sur la diplomatie là où elle s'est montrée dans cette espèce de boîte blanche là, dans une grande salle Élysée là, du très pompeux Salon Hoche à Paris. Elle était à 15 mètres des journalistes et dedans la scène ressemblait à une performance artistique un peu ridicule et inquiétante, quoi, une parodie de conférence des ambassadeurs, mais avec le côté glaçant des dictatures de l'Europe de l'Est, quoi, un truc flippant. Et puis bon, c'est là qu'elle a remis en cause le pacte franco-allemand. Et puis mais il y a eu cette espèce de moment étrange et très flippant où il y a eu une femme, une opposante, d'ailleurs c'était une écologiste, qui a brandi cette photo, cette pancarte en forme de cœur avec Poutine et Le Pen, et elle a été plaquée au sol, immédiatement tirée par le bras, tirée au sol par un membre du service d'ordre, un mec qui s'appelle Gaulois par ailleurs, un ancien skinhead, donc tout ça ne s'invente pas. D'ailleurs, au sein du DPS, ce service d'ordre, ils ont trouvé le geste professionnellement bien, mais techniquement à chier. C'est marrant parce qu'ils ont vu ça comme ça. Et il n'y a pas eu que cet événement qui a un petit peu cassé, gratté l'entre-deux-tours de Marine Le Pen. Il y a eu cette autre conférence sur la démocratie où elle a été interrogée par les journalistes sur sa façon d'empêcher l'accès à certains événements, à une presse, notamment Quotidien. Et elle a dit « Moi, je choisis qui est journaliste ou qui ne l'est pas. » Et ça fait remonter un petit peu pour tout le monde toutes les pressions que subissent la presse au contact de Marine Le Pen, les tentatives d'infléchir systématiques. Je pense que les lecteurs se sont un peu plus regardé ce qui se passait sur le terrain. Et donc nous, les reportages qu'on a vus, on a été à Avignon voir ces électeurs qui étaient surexcités à l'approche du second tour, et on est tombé sur des gens extrêmement racistes, extrêmement violents. Pour en citer qu'un, il y avait Jérôme Moriès, 64 ans, un habitant du Var, qui promettait un bain de sang si Macron était réélu, qui en a marre des Arabes, il faut lui couper la tête, il faut lui couper les couilles et lui mettre dans la bouche. Voilà, et ça, c'était pas du tout des comportements marginaux. Même ce jour-là, les gens le félicitaient pour ce qu'il disait, quoi. Donc tout ça, ça a montré un peu ce qu'est l'extrême droite, ce qu'est Marine Le Pen, et l'entre-deux-tours fonctionne pas. Et là ça parle pas aux électeurs de Mélenchon, pour le coup.
Alors, on a vu aussi une chose, là on se rend compte qu'il y a des enquêtes d'opinion. Alors on ne connaît pas bien sûr le score de dimanche, mais selon les enquêtes d'opinion, aujourd'hui, l'extrême droite, Marine Le Pen, risque de faire un très gros score, comme elle n'a jamais fait jusqu'à présent. Comment, du côté macroniste, on vit finalement cette fatigue du Front républicain aujourd'hui. Est-ce que finalement on l'analyse et est-ce qu'on a, on avait beaucoup misé dessus au départ?
Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il estimait qu'en 2017, ce n'était pas du Front républicain déjà et que c'était une adhésion à sa personne. Donc à partir de là, c'est compliqué maintenant de dire que sa victoire serait uniquement le résultat du Front républicain. Lui n'est pas un grand fan de cette expression parce que ça dévalorise la victoire et ça dévalorise le fait que les gens viennent voter pour non pas un projet mais la conviction qu'il est le meilleur. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que ça, l'idée du Front républicain induit quand même l'idée d'une victoire par défaut malgré tout, et Emmanuel Macron n'a pas très envie de prêter le flanc à cette analyse là il préfère dire que évidemment qui d'autre que lui pour aller parler à Vladimir Poutine, qui d'autre que lui pour continuer la baisse du chômage, qui d'autre que lui pour continuer la hausse de la croissance, continuer un projet en cours. Après, il a bien conscience qu'une grande partie des électeurs ne viendront pas voter par passion absolue pour ce qu'il représente, et donc c'est ce qu'il dit quand il dit mais au premier tour on choisit et au second tour on élimine. C'est une notion un peu différente que l'idée du Front républicain. C'est finalement, vous avez voté pour qui vous le souhaitez, c'est le jeu de la démocratie au second tour de se reporter vers le moins pire. Donc on voit bien que dans la sémantique, on n'est plus sur cette idée du Front républicain tel qu'on a pu l'entendre en 2002 dans son esprit. Maintenant, chez les macronistes, certains, je pense notamment à Christophe Castaner, un ancien socialiste, militant pur jus, est beaucoup plus dans cette idée-là de bien sûr assumer le Front républicain. Et d'ailleurs, c'est intéressant de regarder ce qu'ils ont fait dans les élections intermédiaires, parce que c'est là que vraiment se matérialise beaucoup plus l'idée du Front républicain. Est-ce qu'on fait des alliances? Est-ce qu'on n'en fait pas? Quand il y a des triangulaires, est-ce qu'on se retire? Est-ce qu'on ne se retire pas? Et LREM a plutôt joué le jeu quand même du Front républicain au régional, on l'a vu en 2021.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, en pleine épiphanie écologiste, hein, on l'a vu à Marseille, il pourrait véritablement faire ce qu'il a dit sur l'écologie, ou alors d'un coup, c'est une révélation, il s'est dit, il faut que je rattrape les électeurs de Jadot et de Mélenchon.
C'est une révélation, il s'est dit, il faut que je rattrape les électeurs de Jadot et Mélenchon, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est même pas une analyse, c'est factuel. Ouais. Il a découvert tout ça après le second tour. J'ai un de ses conseillers qui me disait après le premier tour de la présidentielle, oh, Mélenchon va lui donner des trucs faciles comme son truc là du droit à l'eau. Enfin voilà, donc c'est ce qu'Emmanuel Macron a dit quand il fallait à Marseille, quand il a dit qu'il fallait préserver le droit à l'air, le droit à l'eau potable. C'est des thématiques absolument mélenchonistes. Et donc clairement, les macronistes l'ont découvert comme l'histoire du. C'est pas écologique, mais du retour sur le recul de l'âge de départ à la retraite, tout le monde l'a découvert le lendemain du premier tour, hein, cette proposition d'Emmanuel Macron. Donc, il a découvert ça. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Ça, je peux pas présumer.
Ouais. Tristan, on a aussi appris, pense. Donc déjà, bon, au premier tour, elle en parlait, Marine Le Pen. Là, elle l'a redit sur cette histoire. Donc, de si elle est élue, elle voudrait un gouvernement d'union nationale. C'est quoi un gouvernement d'union nationale avec Marine Le Pen?
Surtout dans sa bouche, le mot national est en fait une espèce de tour de passe-passe sémantique. On dit le camp national dans l'extrême droite, c'est une invention pour essayer de se mettre en opposition avec l'anti-national qui est censé représenter Macron, qu'on considère là-bas comme le mondialiste en fait. C'est un clivage qui a été créé pour se montrer seulement en opposition de lui, c'est-à-dire en opposition du système. Quand on dit camp national, en fait, on se trompe. On devrait parler d'union nationaliste, c'est-à-dire de gens qui mettent la nation au-dessus de la République, dans la pure tradition de l'extrême droite. Alors, oui, elle pense qu'elle peut faire un gouvernement d'union nationaliste. Elle a déjà donné des noms de gens qui pourraient rentrer dans son gouvernement. Il y a Jean-Paul Garot, ex-LR, qui est un ancien magistrat très droitiste, hein, qui pourrait être son ministre de la Justice. Il y a Hervé Juvin, qui est un eurodéputé, qui prône le localisme, c'est-à-dire une idée très identitaire de l'écologie. Hein. On imagine l'étranger comme un envahisseur qui pourrait abîmer son biotope. C'est quelque chose d'assez très d'extrême droite. Ou alors Mariani, cet eurodéputé pro-russe, pro-Assad, dont on ne sait pas exactement où il pourrait rentrer. En tout cas, Le Pen l'assure. Hein, elle dit que les gens viendront un peu à la gamelle. Quoi. Vous verrez, à partir d'un moment où j'aurai gagné, il n'y aura pas de problème, tout le monde se montrera, tout le monde souhaitera un poste de ministre, et même les journalistes qui votent pour moi mais qui n'osent pas le dire. Alors on ne sait pas trop à qui elle fait référence, à quel journal, en tout cas sans doute pas à Libération, mais voilà, elle estime qu'elle aura quelqu'un avec elle.
Elle y croit encore à cette victoire?
Ah, j'en sais rien. J'imagine que oui, mais je ne sais pas. Le premier tour, en fait, elle a quand même semblé, au moment des résultats, un petit peu, alors très souriante, mais un petit peu plus abattue qu'on aurait pu l'imaginer, quand même, pour une seconde finale de présidentielle. C'est quand même ce qu'elle attend depuis 5 ans, en ayant fait une campagne de second tour, finalement assez réussie, puisqu'elle a été cachée par Zemmour tout du long. Elle aurait pu rater là-dessus. Elle a eu quand même de la chance. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont... Les planètes sont alignées pour elle. Mais je pense qu'elle l'espérait, au dernier moment, passer devant, être en tête au premier tour, ce qui aurait un petit peu changé la donne. Là, elle a beaucoup de retard à rattraper et comme on le voit, elle commence à baisser un peu plus dans les sondages d'entre-deux tours quand Macron monte. Ça va quand même être difficile. Même son père, Jean-Marie Le Pen, dit ce scénario n'est pas le plus probable, mais il reste possible.
Une dernière chose, Charlotte, comment on réagit à cet argument aussi chez les macronistes quand on dit le pays pourrait être ingouvernable par rapport finalement à des manifestations, des problèmes sociaux. Est-ce que pour eux, est-ce qu'ils l'ont intégré ça en cas de réélection d'Emmanuel Macron ?
Ils sont un peu divisés sur la question. Certains disent qu'ils ne croient pas au troisième tour social, c'est leur expression, parce que les Français justement sont plus fatigués et lassés qu'en colère. Et donc ça se manifeste plus par de la résignation que par des manifestations monstres. Et d'ailleurs, depuis que les gilets jaunes, entre guillemets, sont rentrés chez eux, l'histoire leur donne plutôt raison. C'est vrai que la pandémie a un peu mis le quinquennat entre parenthèses, mais a battu aussi un peu tout le monde. Donc une partie pense ça, et une autre partie pense qu'il fallait faire campagne et justement être tout à fait transparent sur son programme pour l'éviter. Donc un peu plus de crainte, mais c'est pas un sujet qui les paralyse. Hein. Clairement pas, ça les empêche pas de dormir, non.
D'accord, il y en a un qui les empêche de dormir ou pas ?
Très franchement, là, ils ont un peu enjambé ce second tour. Ils se voient vainqueurs. Donc, la question... Les macronistes, là, sont très globalement dans la composition du gouvernement, la composition des cabinets, les législatives, avoir la meilleure circonscription. Je pense que leur agenda va jusqu'au second tour des législatives. Et après, on verra.
C'est la fin de ce 12e épisode de Libellisé. Merci Charlotte, merci Tristan. Ce week-end, donc, on vote pour le second tour de l'élection. N'oubliez pas, c'est important. Libellisé revient lundi pour tout savoir et comprendre des résultats de cette élection et ses conséquences sur la gauche et la droite en plein chantier. À ne pas rater, d'ailleurs, un conseil, vous pouvez encore vous abonner, c'est important pour revivre eh bien, toute cette présidentielle. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Si vous voulez participer, d'ailleurs, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisé@libération.fr. On se retrouve donc lundi prochain.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.